Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Le quinquennat de François Hollande, ça a commencé à peu près comme ça.
Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Je ne nommerai pas les membres du parquet, alors que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature...
Bonjour Laurent de Sutter.
Bonjour.
Vous êtes professeur de théorie du droit à Bruxelles et vous publiez aux presses universitaires de France le livre des trahisons où 40 universitaires estiment que François Hollande les a trahis. Dans ce mois, président, vous pensez qu'il n'a pas tenu promesse ?
Ah ben ça c'est encore, j'ai envie de dire que c'est la moindre des choses. Ça fait partie de la vie politique de base de pas tenir les promesses qu'on a formulées. La question qui nous a intéressé était un petit peu différente de celle de simplement répondre ou ne pas répondre à des promesses formelles. C'est celle de trahir plutôt que des valeurs de gauche, des promesses de gauche, trahir quelque chose comme une idée plus générale de la gauche. Ce qui nous a intéressé, c'est de dresser le portrait d'un quinquennat dans lequel la gauche, ou celle qui se prétend telle, a travaillé à son autodestruction comme jamais.
Travailler à son autodestruction, et cependant aujourd'hui publier un tel livre, on a l'impression que c'est un peu tiré sur une ambulance.
Oui, vous avez tout à fait raison. Une ambulance en plus dont les pneus sont crevés, qui n'a plus d'essence dans le, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Bien évidemment, ce qui nous a intéressé, et je pense que ce qui est intéressant du reste en général dans le cas de François Hollande, ce n'est pas François Hollande lui-même. C'est la manière dont François Hollande, son quinquennat, ses différents gouvernements, ses ministres, ses actions, les lois qui ont été prises, etc., forment un ensemble d'indices. Qui du reste ne sont pas limités à la France, un ensemble d'indices qui nous disent quelque chose de très grave et de très profond sur la transformation du paysage politique et en particulier de la gauche au gouvernement.
Alors que nous disent-ils ces indices sur justement cette évolution que vous pressentez de la gauche de gouvernement ?
Qu'elle est finie.
Pour quelle raison ?
Pour des raisons qui sont propres à son fonctionnement, propres à la manière dont celle-ci refuse désormais de rencontrer ce qui forme quand même la base de la base, l'élément le plus simple de ce que pourrait être une gauche, à savoir la perspective d'un devenir et d'un devenir qui soit ancré dans l'égalité. Visiblement, c'est quelque chose dont aujourd'hui la plupart des formations de gauche de gouvernement et spécialement les formations françaises ont décidé de se torcher les fesses.
Mais alors, puisque vous jugez que ce quinquennat est un échec, puisque vous jugez que ce quinquennat prouve en quelque sorte que la gauche de gouvernement est finie, est-ce que vous pouvez voir d'autres exemples de pays qui sont aujourd'hui gouvernés de manière plus à gauche que ne l'est la France ? Est-ce que vous avez des exemples en tête ?
C'est précisément la difficulté, je crois, et l'angoisse pour la plupart des gens qui aiment à se dire ou à encore se rêver de gauche, c'est-à-dire où regarder ? Alors effectivement, il y a des espoirs qui peuvent être aperçus du côté de l'Espagne, même si ces espoirs, voilà, sont des espoirs fragiles.
C'est pas une gauche de gouvernement.
C'est pas une gauche de gouvernement. Simplement, c'est une gauche qui est structurée de manière très différente de la gauche de gouvernement. Donc, on peut imaginer, à nouveau peut-être faux espoirs, mais on peut imaginer que son mode de fonctionnement, une fois au gouvernement, si elle y arrivait, serait un petit peu différent. Puisque la gauche...
Mais tant qu'elle n'y est pas...
Tant qu'elle n'y est pas, ça reste de l'ordre du vœu pieux. De même, beaucoup d'entre nous, je crois, ont été très déçus, très frappés, très attristés par ce qui a pu se passer en Grèce avec Syriza. On regarde avec intérêt ce qui se passe en Islande. On peut regarder ce qui se passe au Portugal ou en Irlande comme des ferments d'espoir. On peut regarder ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec Jeremy Corbyn. Ce sont des espèces de vibrations encore élémentaires, mais qui témoignent du fait que en Europe, quelque chose comme une exaspération généralisée se traduit progressivement par l'invention et l'exploration d'alternatives. Voilà, alors tout ça est très fragile, mais c'est vers ça qu'il faut se tourner, je crois.
On revient à une définition de la gauche, donnée par Gilles Deleuze dans son abécédaire.
Je pense qu'il n'y a pas de gouvernement de gauche. Bon, ça, c'est là aussi, il ne faut pas s'étonner. Le gouvernement qui devrait être un gouvernement de gauche et qui n'est pas un gouvernement de gauche, c'est pas qu'il n'y ait pas de différence dans les gouvernements. Il y a au mieux ce qu'on peut espérer, c'est un gouvernement favorable à certaines exigences ou réclamations de la gauche. Mais un gouvernement de gauche, ça n'existe pas, car la gauche n'est pas affaire de gouvernement.
Laurent de Sutter, dans le livre que vous publiez, Le Livre des Trahisons, où vous faites un bilan très sévère du quinquennat de François Hollande, finalement, est-ce que vous ne reprenez pas l'idée de Deleuze qui consiste à dire si on gouverne, on n'est plus à gauche ?
Je pense que Deleuze a tout à fait raison et sa définition elle est un petit peu plus loin. Il disait être de gauche, c'est devenir minoritaire. Donc par hypothèse, de fait, une majorité, pas au sens numérique, mais au sens d'un comportement qui se voudrait majoritaire, c'est-à-dire assumant sa propre domination, etc., assumant son espèce d'assise et d'autosatisfaction, ne peut pas être de gauche. Ça ne signifie pas qu'on ne peut pas être minoritaire dans un gouvernement. Qu'on ne peut pas devenir minoritaire en étant président de la République, etc. etc. Donc je crois qu'il y a une espèce de balance que l'on peut réaliser entre fonctionnement organisationnel, institution publique, et cette idée de la gauche comme quelque chose qui se refuse toujours à s'asseoir dans sa propre satisfaction.
Mais finalement, Deleuze dit à peu près la même chose que François Hollande lorsque François Hollande dit que l'électeur de gauche est condamné à être dans la conscience malheureuse. Il ne le dit pas exactement ainsi. Il dit qu'en revanche, il y a forcément une déception puisque la gauche vient dans des périodes difficiles. C'est pour ça qu'elle vient au pouvoir. Il l'a dit dans un discours récent. Et donc, une fois qu'elle est dans ces conditions difficiles, comme elle ne peut pas métamorphoser la réalité en un instant, eh bien, les électeurs sont condamnés à la déception. Est-ce que finalement, vous ne faites pas que résumer cette déception mécanique chez les électeurs de gauche ?
Je crois que rien ne pourrait être plus éloigné de ce que disait Gilles Deleuze, ne fût-ce qu'en termes d'affect. Considérer que les électeurs doivent s'apprêter à la déception de la part d'un homme politique, c'est évidemment d'un cynisme absolument inouï. Là où je crois que ce que Deleuze disait, c'était pas du tout ça. Il faut pas s'apprêter à être déçu. Il faut s'apprêter, il faut travailler à constituer quelque chose comme une joie politique à partir du tout petit, ce qui est pas du tout la même chose. Ce qui est intéressant, c'est comment les choses vont grandir, comment les choses vont devenir. Dans le cas de Hollande, c'est écoutez, d'abord on va vous casser un petit coup et puis après on verra bien ce qu'on peut faire. C'est pas du tout la même chose.
On se rappelle des années Mitterrand.
La politique, ce n'est pas seulement des chiffres, des statistiques, des pourcentages, des raisonnements ou même des ambitions. C'est aussi et surtout comment vivent les gens.
Moi, je suis un homme libre. Libre au regard des forces de l'argent que je défie le regard clair.
Vous aviez 4 ans, Laurent de Sutter, lorsque François Mitterrand a été élu. Néanmoins, quel bilan feriez-vous, par exemple, des 2 mandats de François Mitterrand ?
Il y a une date qui est quand même très très importante, c'est 1983. C'est le tournant de la rigueur. C'est Jacques Delors venant frapper dans le bureau de Frédéric Mitterrand François Mitterrand, pardon. Et lui disant c'est fini, mon coco, va falloir serrer les vis. Et je pense que cette date-là est une date qui est assez symptomatique. Et une date du reste que Yanis Varoufakis a pointé comme étant une date très importante dans le tournant qu'a pris l'Europe tout entière vers sa propre impossibilité. Donc le bilan, ce serait assez arrogant de se livrer un bilan général, mais voilà, je pense que François Mitterrand représente très très bien cette espèce de duplicité de la gauche de gouvernement qui, d'une part, effectivement, revient en permanence sur ses propres engagements et ses propres promesses, et puis d'autre part, fait passer sous étiquette de gauche un programme qui est un programme dont on se demande quel est le moindre rapport qu'il a avec l'idée de gauche.
Mais c'est vous
qui
parlez.
Au nom de la réalité ou des réalités. Moi, ce qui me fascine toujours, c'est ça. C'est le vocabulaire des réalités auxquelles il faut s'adapter. Depuis quand la politique a quoi que ce soit à voir avec les réalités ?
Mais c'est justement cette opposition traditionnelle entre l'éthique de conviction, donc l'idée qu'on doit faire en fonction d'une idée, quasiment d'une théorie, parfois d'une idéologie, et l'idée que défendait Mitterrand. C'est pour ça que quand vous le traitez de duplice, s'il était là, il serait probablement en colère, parce que lui considérait avoir avant tout une éthique de responsabilité, et d'ailleurs il moquait par exemple les mandésistes qui, selon lui, étaient des gens qui avaient les mains propres, précisément parce qu'ils n'avaient pas de mains, parce qu'ils n'avaient rien fait, parce qu'ils étaient condamnés à être dans l'opposition.
Il se serait énervé, mais pour la galerie. Je veux dire,
non, je pense qu'il le pensait véritablement.
Disons que l'observation des mouvements de l'histoire permet de penser que François Mitterrand, et c'est tout à fait naturel, il ne s'agit pas de le critiquer en disant ça, évidemment, a pratiqué effectivement la duplicité comme un art, et il l'a pratiqué avec davantage de virtuosité encore que d'autres. Du reste, c'est tout de même... Si vous voulez, il y a quelque chose qui me fascine toujours, c'est que l'on puisse s'attendre de quelqu'un qui s'engage dans le domaine de la politique, d'être clair, transparent. Vous savez, avec ce modèle absolument invraisemblable qu'on sort de nos manches régulièrement, celui de qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Ça m'a toujours fasciné, ça. Est-ce que vous voulez vraiment avoir à la tête de votre gouvernement quelqu'un qui fait ce qu'il dit, qui dit ce qu'il fait? C'est-à-dire quelqu'un qui est absolument adéquat à lui-même, sans reste, sans débordement, sans dissimulation, etc. Pour moi, c'est le nom même du cauchemar, ça. Donc il ne s'agit pas du tout de remplacer, par exemple, quelqu'un comme François Hollande ou comme François Mitterrand par quelqu'un qui serait plus honnête, plus, je ne sais pas, droit, plus, etc. C'est pas du tout ça, la question. La duplicité fait partie de la vie politique. Par contre, à quoi sert cette duplicité? C'est ça qui compte. C'est ça qui est important. Dans quelle direction elle nous oriente. Et quand elle nous oriente de plus en plus, disons, aux mains des pouvoirs néolibéraux, alors vraiment, on en a un peu marre, quoi.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de choix relatif, Laurent de Sutter, puisque la démocratie, ça n'est pas nécessairement le pouvoir au meilleur, c'est parfois aussi le choix du moins pire, et dans ces conditions, et là aussi c'est une rhétorique qui est très souvent présente dans la gauche de gouvernement, est-ce que le choix de François Hollande vous apparaît tout aussi contestable aujourd'hui qu'il pouvait l'être hier au moment de l'élection ?
Les choix sont pas contestables. Ce qui est problématique, c'est la manière dont le peuple dont il est question dans la démocratie est constitué. Quand on travaille de très longue haleine, de très longue durée, pour qu'un peuple, c'est un mot très compliqué quand même, le mot peuple, enfin, pour qu'un peuple en arrive à voter à François Hollande, c'est là qu'est le problème. C'est comment on en arrive à ce que ce vote soit considéré comme un vote possible ou un vote souhaitable. Voilà, ça c'est très très grave. Et c'est pas seulement Nicolas Sarkozy juste avant qui a constitué ce peuple voulant François Hollande. C'est une histoire beaucoup plus longue de relations gauche-droite en France et en Europe.
Pourquoi dites-vous que c'est un mot extrêmement compliqué, le mot peuple ?
Parce que c'est un mot qui est massif. Le peuple, quelque part, ça n'existe pas. Il y a des populations, des multitudes, des publics, voilà. Mais le peuple, comme catégorie politique, c'est une catégorie, voilà. Enfin, on va pas faire une longue cour de philosophie politique, mais c'est une catégorie quand même assez compliquée.
Catégorie compliquée, mais si l'on se remet dans des situations simples, si d'aventure il y avait, par exemple, un second tour entre l'extrême droite et François Hollande, est-ce que vous appelleriez, avec les 40 universitaires qui signent ce livre, le livre des trahisons, Laurent de Sutter, à ne pas voter pour François Hollande?
Je serais même un petit peu plus radical. Alors, certains vont hurler et vont me traiter d'irresponsable total, et je pense que tout le monde parmi les contributeurs du livre des trahisons ne me suivrait pas, mais enfin, je sais même que certains ne me suivent pas sur ce point. Moi, j'en appellerais assez franchement à ne pas voter du tout.
Pourquoi ? Parce que vous pensez que de toute façon l'extrême droite ne passera pas, ou parce que vous considérez qu'il n'y a pas véritablement de différence entre l'extrême droite et la politique menée par François Hollande ?
Parce que je pense qu'on a vraiment besoin d'un moment de suspension là. On a besoin d'un moment de suspension du fonctionnement ordinaire de la vie des, entre guillemets, démocraties parlementaires, enfin telle qu'elle se déploie devant nos yeux. On a vraiment besoin d'un moment d'arrêt. Et la question, c'est effectivement comment arrêter, pas du tout pour tout casser, pas du tout pour tout ruiner, mais comment arrêter simplement pour avoir un bref moment de respiration, se poser la question de ce qu'on veut vraiment et pouvoir réavancer. Donc ne pas voter comme manière de se soustraire, ne fût-ce que temporairement, à l'exigence et à l'ensemble des régimes de discours accompagnant cette exigence propre à cette démocratie présentée comme le seul horizon possible, à cette gauche présentée comme le seul horizon possible, parce qu'il n'y a rien d'autre, qu'est-ce que vous voulez sinon ? Ce sera l'extrême droite d'un côté, ce sera Mélenchon de l'autre, vous voyez ce que je veux dire ? L'injonction de participer, si on veut éviter la catastrophe, est précisément ce dont on doit se séparer.
Mais alors si je vous demandais malgré tout de défendre François Hollande, de trouver au moins dans ce quinquennat finissant des choses qui vous agréent, qu'est-ce que vous diriez, Laurent de Sutter ?
Il est génial, François Hollande. Merci, François Hollande. Non, mais c'est vraiment, vraiment sans blague. Parvenir à réunir un tel écheveau, un tel faisceau d'imbécilité dans un seul, comment dirais-je, dans un seul quinquennat, c'est quand même absolument merveilleux. Donc merci de rendre encore plus visible que ce que que ce qui c'était déjà avant. C'est pourquoi on n'a pas du tout envie de vous.
Mais est-ce que ça, finalement, ça n'est pas tout simplement du romantisme, de la pose ou de la radicalité? Parce que le procès est, que l'on pourrait faire aussi à cette gauche critique de la gauche du gouvernement, de la gauche de gouvernement, pardon, elle pourrait consister à dire finalement que il y a une forme de complaisance dans la critique qui ne débouche sur aucune critique constructive ou aucune plateforme de gouvernement.
Tant mieux. Vive le romantisme. Non, on a vraiment besoin de romantisme politique, je pense. Ne fût-ce que parce que ceux qui...
Mais ça fonctionne où, le romantisme politique?
Oh, ça a beaucoup fonctionné. Ça n'arrête pas de fonctionner.
Donnez-moi des exemples.
Oh, écoutez, on peut prendre comme exemple tous les moments un petit peu, beaucoup, révolutionnaires de l'histoire. Ils ont tous été basés sur une forme de romantisme. Il y a toute une série d'initiatives qui sont des initiatives locales dans le monde, qui sont basées sur des formes de romantisme. Il y a des formes, des résistances, des luttes partout dans le monde et en France, de Nuit Debout à Notre-Dame-des-Landes, etc., qui sont basées sur le romantisme.
Ces luttes, quels que soient évidemment les jugements qu'on peut porter, qu'on peut formuler à leur sujet, ces luttes ne sont que des luttes locales. Elles ne sont pas des luttes qui atteignent un niveau de gouvernement.
Eh bien, précisément, je crois qu'il faut revenir à des luttes locales. Si vous voulez, si on refait l'histoire de la politique du dernier demi-siècle, comment en est-on arrivé à la fin des années 70 au triomphe du néolibéralisme? Tout simplement parce que le néolibéralisme est quelque chose qui s'est construit en silence, discrètement, depuis les années 30, par la construction très matérielle et sophistiquée d'un réseau de relations, de think tank, etc., etc., qui a fait que, évidemment, à la fin des années 70, le pouvoir, si j'ose dire, leur est tombé tout cuit dans les mains. Bon, c'est un travail qui était local, c'est un travail qui a duré longtemps. Et je crois que nous avons besoin d'un romantisme de longue durée, plutôt que le romantisme de l'explosion qui va tout renverser. D'où, effectivement, les luttes locales. On commence par 1, 2, 3, 4, etc., et puis on verra.
Mais si je vous cite malgré tout quelques mesures, prenez par exemple le mariage pour tous qui est souvent invoqué comme étant une mesure de gauche, est-ce que par exemple ce mariage pour tous, il ne constitue pas un point positif selon vous dans ce quinquennat ?
Très bien, le mariage pour tous, ça aurait dû être fait il y a 20 ans.
Mais ça n'a pas été fait il y a 20 ans.
Non, ça n'a pas été fait il y a 20 ans, c'est très triste. C'est très triste que ça a suscité un débat national avec des oppositions très fortes, ça c'est très très triste.
Ça prouve le courage politique d'un homme à qui vous daignez tout courage politique.
Un pouvoir politique local. Après, c'est une décision qui aurait pu passer sous d'autres formes que celle-là. Je veux dire, il a aussi fait en sorte que ça prenne la forme d'un débat national, là où ça aurait pu très bien passer comme une lettre à la poste, quoi. C'est vraiment le genre de mesure qui, aujourd'hui, relève de la, vraiment du plus élémentaire, enfin, à mes yeux.
Laurent de Sutter, le livre des trahisons, c'est ce livre que vous publiez avec 40 universitaires où vous dressez un bilan critique, comme on vient de l'entendre, de François Hollande et de sa politique. À 8h15, vous serez rejoint par Laurent Bouvet, politologue, qui tentera de défendre François Hollande, s'il le veut bien d'ailleurs. Nous l'entendrons tout à l'heure. En attendant, il est 8h sur France Culture.